Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nina, vous êtes bien dans l'émission 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qu'on n'a pas de mémoire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes mercredi 20 mai ou jeudi 21 si vous nous écoutez en rediffusion. Et si c'est le cas, eh bien bonne matinée à vous. Au sommaire, aujourd'hui Valentine de la rédaction est partie en reportage au cœur du chantier de découvrement du parking Vilaine. On pourra y entendre le conducteur des opérations de la ville, mais aussi les paysagistes qui participeront à l'aménagement des quais. Ce sera à midi 40 dans 3 en 1. Et pour l'interview du jour, Julie, tu as reçu Régine Comocoli.
Oui, Régine Comocoli est une élue insoumise à la mairie de Rennes. Depuis son élection, elle subit des injures et menaces racistes et misogynes, parfois quotidiennes. Et je l'ai questionnée sur sa réponse à ces attaques, mais aussi sur la lutte collective qu'elle mène avec ses camarades de Rennes.
Ce sera dans quelques instants sur Canal B, alors restez avec nous et puis bonne émission. Mais avant qu'on se lance dans cette émission, eh bien, on va parler de l'événement qui est sur toutes les bouches, mais pas forcément pour de bonnes raisons.
Et oui, en ce moment, c'est la 79e édition du Festival de Cannes. Et comme chaque année, l'iconique Montée des Marches fait parler d'elle. Ça bitch dans tous les sens, sur la tenue de Virginie Efira, sur l'amour fou entre Adèle Exarchopoulos et François Civil, ou encore sur « Mon Dieu, Marion Cotillard s'est fait marcher sur le pied !» Tant de drama dans cette résidence secondaire des Bourges qui se la pète sur la Croisette. La montée des marches a toujours été un prétexte pour critiquer la mode, les querelles et tout autre zizanie sur le tapis. Mais depuis quelques années, ce sont les influenceurs et influenceuses qui se retrouvent au cœur de ces critiques. Thibaut InShape, Enjoy Phoenix, Squeezie, de plus en plus de personnalités d'internet participent à l'événement et la toile s'affole. La culture du vide, ces influenceurs n'ont rien à faire au Festival de Cannes. Ou encore... J'ai besoin que tous les influenceurs soient éradiqués du festival. On n'est pas dans la demi-mesure ici. Les influenceurs et influenceuses sont jugés à l'aune de leur présumée crédibilité ou légitimité à monter les marches. Que cela ne déplaise aux habitués de Cannes, cette légitimité se justifie par leur notoriété. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce qu'ils et elles sont invités par des marques partenaires du festival dont ils font la pub en défilant aux moments les plus médiatisés. Et ensuite, parce que cette présence d'influenceurs, c'est une stratégie pour créer un pont entre le monde du cinéma et leurs followers, plutôt jeunes et qui fréquentent de moins en moins les salles de cinéma. Parce que le Festival de Cannes, ce n'est pas une réunion de gros nerds cinéphiles, loin de là, c'est une marque, un logo qui représente une élite bourgeoise du cinéma. Et pour que ce logo reste pertinent à travers les générations, il faut l'adapter. C'est ce qui explique la présence des influenceurs et influenceuses sur le tapis, mais aussi de Meta en tant que partenaire officiel de la 79e édition. Le festival évolue avec son temps, mais la stratégie marketing reste la même. Toucher une large audience en invitant des participants populaires auprès du grand public, alors qu'ils n'ont pas de lien direct avec le cinéma. Ceci permet de faire rayonner le festival au-delà du coin VIP, en invitant Léna Situation à la table des Isabelle Huppert et Vincent Cassel, sans pour autant remettre en question le statut élitiste de ce rassemblement.
Voilà qui taille un short au smoking de la Croisette. Merci Julie, avant de continuer le reste de l'émission, on s'écoute un petit son qui date d'il y a 20 ans.
I got the clap. I'm going crazy. I'm getting sick. I'm feeling lazy. I owe it to the girls. 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 I can't eat. I'm feeling wild. I got an itch like a hungry child. I owe it to the girls. 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 I owe it to the girls, I owe it to the girls.
Gauthier, I Owe It to the Girls, un morceau qui craque un peu, on l'a entendu à l'oreille. Sorti en 2004, ça ne date pas d'hier, mais ça nous plaît encore. Et tout de suite, place à l'interview du jour dans 3 en 1. Elle est conseillère municipale et métropolitaine à Rennes-Ville et Métropole, c'est Régine Comocoli. Elle nous parle des menaces racistes qu'elle subit et des différentes manières d'y faire face, individuellement et collectivement.
Elle se présente comme une femme noire élue de la République, conseillère départementale du canton Rennes 6, enfant de l'exil devenue servante du bien commun, ayant le cœur rempli de foi. Régine Comocoli a fait son entrée au conseil municipal de Rennes le 26 mars dernier sous l'étiquette insoumise. Mais depuis son élection, elle est sujette à une vague de haine décomplexée, des injures sur les réseaux sociaux jusqu'à un lancer de pierre sur son domicile. Son mandat de conseillère est teinté d'attaques racistes à son encontre. Si elle a porté plainte à chaque fois, l'enquête ne permet pas aujourd'hui d'identifier et de condamner des coupables. Aujourd'hui, elle est présente sur le plateau de 3 en 1 pour parler de la lutte antiraciste qui s'organise à Rennes. Régine Comocoli, bonjour.
Bonjour.
Donc j'ai brièvement évoqué les attaques que vous subissez en introduction, mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'ampleur que ce racisme prend depuis votre arrivée à l'Hôtel de Ville ?
Merci tout d'abord de m'avoir invitée, je suis très honorée. Ce qui arrive dépasse mon cas personnel. Pendant toute la campagne municipale de cette année 2026, partout en France, on a vu cette banalisation de la haine, des paroles racistes, des propos, y compris sur certains chaînes télévisées et aussi des personnes politiques qui ont porté cela. Donc oui, je pense que c'est la conséquence de tout ça. Donc aujourd'hui, je suis un peu indignée. Même beaucoup indignée, parce que ce qui m'arrive, même si ça me touche personnellement, c'est aussi parce que je suis un symbole. Je suis une femme noire, une femme issue de l'exil, une femme issue des quartiers populaires et une femme qui parle aussi. Pour moi, j'associe ça aussi à un côté très féministe aussi. Il ne faut pas le négliger, tout ce sexisme et puis la misogynie que j'ai subie. Donc oui, ça m'inquiète énormément. Mais en même temps, ça me donne aussi de la force de continuer parce qu'on ne peut plus se taire et qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. Et c'est urgent.
Vous dites que votre engagement citoyen coûte à vos proches. Comment vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez protéger cette espèce de vie personnelle ?
Ce qui s'est passé cette année, je ne l'avais pas anticipé. Je n'avais pas anticipé à ce que les choses viennent jusqu'à mon domicile. Mais pour moi, ma maison, mon appartement, mon lieu de vie et ma famille est le lieu où je peux me poser, déposer tout ça, être juste la maman, la mère qui veut juste jouer et rire avec ses enfants et ses proches. Et drôle hein, que là, aujourd'hui, c'est devenu aussi mon lieu de vie, est devenu un sujet politique, enfin des sujets politiques. Donc, on est inquiet quand on rentre chez nous, mes enfants et moi, quand mes proches aussi. J'ai des voisins ou d'autres qui font des blagues aussi en mode alors qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on nous a tout fait. Le logement, ma voiture qui a été cassée, vandalisée et tout. Donc qu'est-ce qui va nous arriver? Ça c'est des vraies questions au quotidien, c'est mon quotidien. Et ça en tant que mère, oui, je me culpabilise un peu parce que j'ai aussi cette responsabilité face à ces premières citoyennes qui sont mes enfants à la maison. J'ai les responsabilités de parentalité. Et là aujourd'hui, bah, c'est un peu compliqué à l'exercer parce que ça me met vraiment mal et j'ai pas des outils, j'ai pas ce qu'il faut pour me protéger face à cela. Donc ça reste très très difficile, on vit le jour au jour.
Le 4 avril dernier, vous avez répondu à l'appel de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, qui lui aussi a fait face à une vague de racisme démesuré, qui va au-delà donc de sa fonction d'élu de la République et qui l'attaque dans son intégrité personnelle. Pourquoi est-ce que pour vous, il était important de participer à ce rassemblement antiraciste ?
Pour moi, c'était très important de répondre à cet appel de Bali Bagayoko que je lui redis encore mon soutien là sur votre antenne parce que ce qu'on vit est difficile. Et je pense qu'il faut être aujourd'hui à cette place-là élu noir pour comprendre cela parce que même si on va en parler, les soutiens de nos camarades, de nos collègues politiques blanches, hein, mais il y a une réalité qui nous concerne et cette négrophobie fait souffrir, touche vraiment à la santé. Vous l'avez rappelé, à l'intégrité, ben, c'est ça l'intégrité, c'est vraiment la santé physique, mentale aussi parce que ben, tout est répercuté aussi sur notre mission, parce qu'en fait, on oublie de le dire souvent, c'est qu'on a été élu pour servir la République. Et là, aujourd'hui, servir la République devient un danger. Donc, en fait, on a une mission à accomplir, parce qu'à la fin, il faudra faire un bilan de mandat. Et pendant ce temps-là, ben, mon temps est volé par toutes ces personnes qui utilisent le racisme, et que je rappelle que c'est condamnable et que c'est interdit par la loi, pour nous faire souffrir, pour nous dévier finalement de notre vraie mission, parce qu'il y a des vrais sujets écologiques et sociaux à gérer. Et pendant ce temps-là, ben, on doit répondre aussi à des besoins qui sont aussi ben, vitaux. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'était nécessaire pour moi d'y répondre, d'y aller, pour me mettre avec les gens qui subissent ça, pour comprendre. Et puis, parce que, il faut le dire aussi, je suis un peu seule dans cette côte ouest. Je suis la Bretonne noire, comme disent mes copines. Et je suis très, très fière, hein, parce que la Bretagne m'a accueillie. Mais je me sentais un peu seule dans tout ce que je subis. Jusqu'aux preuves contraires, je suis la seule ici à Rennes, en Ille-et-Vilaine, à subir cet harcèlement raciste lié à mes fonctions. Donc, il fallait que j'aille quelque part où il y a plus de nombre, de voir comment ils s'organisent. Et puis aussi de récupérer un peu d'énergie, parce que tout ça... Je vous avoue que c'est énergivore, on est épuisé. Et donc, il fallait reprendre la force. Et donc, être là, entendre aussi leurs difficultés, entendre aussi les stratégies, qu'est-ce qu'ils font, comment on peut répondre à ça. Et puis, parce que c'est un monsieur plein de sagesse et d'intelligence, j'avais besoin des réponses, de comment tenir, comment dépasser le personnel, comprendre aussi, parce que en tant qu'humaine, la première question, on se dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi en tant que personne, en tant que femme? Et donc, aller le voir aussi, c'est de comprendre que ça dépasse notre cas personnel, que c'est très symbolique et que comment on répond aussi politiquement, comment on s'organise. Donc, j'avais besoin de cela et ça m'avait fait du bien parce que, comme tout le monde en France, vous avez vu le nombre des personnes qui sont venues là collectivement répondre à dire que ben, la France n'est pas raciste. Il y a un tout petit nombre qui voudrait basculer la France dans cette haine noire et qu'on n'en veut pas. Et ça, c'était nécessaire aussi. Et pour revenir aussi, aller prendre des modèles ailleurs pour amener aussi ici à ma reine, à moi. Donc oui, c'était important.
Oui, justement, vous vous en parlez et vous disiez que vous étiez la Bretonne noire, que vous vous sentiez peut-être isolée face à ces attaques. Pourquoi il a été important pour vous aussi d'appeler une mobilisation ici, à Rennes?
Alors, la mobilisation, il faut aussi être honnête. Hein. Des fois, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'était plutôt une volonté des collectifs, hein. Plus particulièrement deux collectifs, le collectif CUNE, que j'ai cofondé, mais surtout de Rennes Mobilisé Sud. Hein. Donc, c'est un collectif des habitants du quartier du Blône qui avait très envie de répondre ici parce qu'il y a eu d'autres personnes qui n'avaient pas les moyens ou des possibilités de se rendre à Saint-Denis suite à l'appel. Donc, il y avait un envie local de venir montrer que, en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, bon, bah, Rennes est connue aussi pour répondre à toutes ces attaques, y compris porter d'autres luttes aussi. Donc, je pense que c'était une évidence. Après, il y avait une attente que de leur part que la légitimité vienne de moi puisque j'étais la personne concernée et qu'il y avait une peur aussi de récupération, et ce que je respecte et je salue énormément. Donc, je me suis inscrite dans le même cas en disant, bon, d'accord, je lance ce truc pour qu'on y aille parce qu'il y avait cette envie. Il y avait une dynamique à ne pas casser et pour construire aussi derrière, parce que, comme certains me le diront, Myriam le dit souvent aussi, certes, c'est moi aujourd'hui qui prends ça parce que ben, je suis devant, et puis c'est comme ça, c'est une réalité. Mais derrière, il y a plein de personnes qui sont dans les quartiers, mais pas que, qui sont dans leur travail, des enfants à l'école, des petites filles, des petits garçons qui subissent du racisme au quotidien, et que ça, eux aussi, qu'il faut penser. Donc, à travers cet appel, à travers cet événement, l'action, c'était aussi pour dire à ces enfants, à ces jeunes, qu'on est là et que je suis avec eux tout autant qu'ils sont avec moi. Et c'est comment ensemble, à travers ce qui m'arrive, on peut transformer ça en action politique beaucoup plus large et le porter collectivement.
Griller des sardes, il en était, c'est déjà vu. La dernière fois qu'on l'a fait, on s'en rappelle plus. Le froid m'est tellement content, rien à foutre. Ce soir en famille, le feu s'allume avec les moufles. Maintenant c'est nous les darons autour de la grille. Les braises rouges, les bouteilles qu'on dégoupille. On parle des enfants, les filles qui filent droit. Les filles sont quittées l'école, la touche à 1003. Après quelques verres, direction la nostalgie. Les délits de jeunesse, les tours de magie. Personne ne danse, les vannes sont caustiques. Un bon barbecue sans piqûre de moustique. Dans mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. fait un bail qu'on s'est pas tous croisés. La moitié remariée, pas d'apprivoisé. Ça mange vite avant que les saucisses refroidissent. Qui prend la Champions League, nos dames réagissent. On parle de l'été, les derniers, le prochain. On cherche les brochettes. Où est le gros chien? Entre gangsters finis sans confetti et quelques hommes d'affaires qui ont investi. On se réchauffe à la fumée d'entrecôte. Ça part plus de sac mais d'entrepôt. La fumée gêne personne au mois de janvier. Si d'autres viennent plus tard, on se met le gigot entier. Dans mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver. Dans mon jardin d'hiver.
Oxmo Puccino, le daron du rap français avec Jardin d'hiver, un titre de son dernier album sorti cette année. Comment faire face au racisme en tant qu'élu municipal? On en parle dans cette deuxième partie d'interview de Régine Comocoli au micro de Julie.
On a parlé avant la pause musicale, mais le 3 mai dernier, l'Union syndicale Solidaire 35 a appelé à un rassemblement contre la haine et le racisme en soutien à votre combat. Est-ce que c'est pour vous une manière de répondre à ces attaques aussi ?
Oui, clairement, c'était ça. C'est-à-dire que face à votre haine, nous, on répond par la solidarité. Face à votre manière d'isoler, nous, on répond par le bas, sortir dans la rue, porter les choses collectivement et dire stop à la haine. Et puis c'était surtout dire aussi vis-à-vis de toute la France, parce que d'après l'histoire, la Bretagne a toujours été une terre d'accueil, une terre d'accueil des migrants. Donc là, ce qui m'arrive là, le laisser comme ça, c'est aussi laisser entendre partout en France que même en Bretagne, finalement, il y a des racistes, donc on peut y aller. Et ça, c'était insupportable. Donc je pense que cet événement, on est venu rappeler qu'on est vraiment une ville de lutte, hein. Parce que c'est ça aussi, et qu'on peut porter les choses collectivement. Et puis pour moi, ça a été aussi une réponse, et je remercie encore toutes les collectifs, y compris même ma partie aussi politique, hein, surtout la France Insoumise Jeune, hein, qui sont à Rennes, très très... pour le coup, là, il n'y a pas de discussion, il n'y aura jamais de débat sur cette question antiraciste qu'on a subie ensemble. J'ai dit « on », parce que même en tant que témoin, c'est aussi une souffrance, et je le mesure. Puisque ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, mes sorties, mes déplacements, c'est aussi ça, c'est mes camarades qui m'accompagnent. Parce que tant qu'il n'y a pas eu d'interpellation, ben on doit faire attention, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc c'est aussi une souffrance pendant ce temps-là, on ne répond pas à d'autres besoins. Et donc c'est tout ça, c'est l'ensemble de tous ces collectifs, des personnes qui sont venues d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui venaient jusqu'à de Morbihan et ça c'était fort aussi de venir dire que ben, en fait, face à vos racismes, face à vos propos de haine, nous on répond par la solidarité, nous on répond par action et on ne vous laisserait pas faire. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça la priorité et c'est très très important.
Et vous avez parlé du soutien que vous avez reçu de la part de la France Insoumise, mais aussi des collectifs, donc notamment celui que vous avez cofondé. Est-ce que à la mairie, personnellement moi j'ai pas vu de déclaration officielle de Natalia Perret qui condamnait ces attaques, est-ce que vous, peut-être en interne, vous avez ressenti un soutien de la part de la mairie ?
Oui, j'ai eu des soutiens politiques, département, la mairie, la préfecture, enfin le préfet et puis tous les autres partis politiques. Après oui, je suis d'accord avec vous, on peut aussi déplorer parce que je pense que dans les cas comme ça, ça dépasse tous nos chapelles, nos partis politiques. Il faut faire un front républicain et il faut prendre position parce que le racisme, ça brise, ça broie, ça tue et qu'il n'y a pas un débat là-dessus et que c'est dangereux pour tout le monde. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, il faut prendre position et j'espère, et sans jugement, je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là juste pour alerter en tant que élu de la République, mais en tant que citoyenne, tout simplement pour dire que l'heure est grave hein, et qu'il faut faire un front commun et dépasser tous nos chapelles politiques et aller dans le même sens parce que nous, j'ai dit nous, dans le cadre, moi, Régine Comocoli, Bali Bagayogo, mais tant d'autres, nous subissons directement, mais en fait, au quotidien, il y a déjà nos concitoyens qui subissent déjà ce qu'on vit, du racisme, d'islamophobie, négrophobie, du sexisme, misogynie, tout ça, on le vit déjà. Mais si les personnes qui ont la responsabilité politique, s'il n'y a pas un pare-feu face à ce qui se passe en face, et ben ça va s'aggraver et on va tomber dans le pire. Et ce n'est pas la France qu'on aime.
Et vous avez été élue à la mairie avec le programme donc de la France Insoumise. Est-ce que là aujourd'hui votre parcours et cette expérience au racisme banalisé, il va forcément teinter votre mandat, mais est-ce que il va peut-être accentuer certaines parties du programme? Comment est-ce que vous allez en tant qu'élue poursuivre votre mandat après ces attaques?
C'est sûr qu'après ces attaques, il y a une vie avant, il y a une vie après. Mais n'empêche, il faut avancer avec cela. C'est comment je transforme ces attaques personnelles en un sujet bien collectif pour porter la question antiraciste. Donc oui, ça se transforme. Là, je suis en train de revoir finalement comment fonctionner. Après, je suis dans un groupe. On est six élus au municipal de la liste La France Insoumise. Donc c'est comment je fais amener ce sujet, comment je vais l'aborder, comment je vais porter cette légitimité en tant que personne noire, mais personne qui a subi aussi, pour pouvoir en faire un sujet politique, pour aussi aller chercher du monde, aussi aller tout simplement discuter avec des personnes qui font ça, qui veulent que la France soit raciste, hein, parce qu'à un moment donné, il faut leur parler aussi. Et souvent, je le dis, ces personnes brillent par notre silence et notre absence. Ils ne comprennent pas ce que nous subissons. Moi, j'ai eu des personnes avec qui, une personne d'ailleurs, que j'ai eu la chance finalement d'échanger avec la personne suite à une attaque beaucoup plus verbale, pour que la personne finalement se dise, mais je ne me rendais pas compte, j'étais prise par un engouement et j'ai sorti ces propos, mais ce n'est pas moi. Et ça, je trouvais que c'était énorme déjà. Donc je sais que ça va être difficile à entendre, mais il va falloir y aller, il va falloir aller parler aux gens. Et ça, c'est aussi ma mission, mon rôle, une mission qui me tombe dessus, parce que je vous avoue que ce n'était pas là le sujet que je voulais porter. Moi, je suis sur la question de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la protection des enfants, sur la question des parentalités. Ça, c'est des sujets qui me portent, qui m'animent, mais il va falloir que je rajoute l'antiracisme, parce qu'au final, je me dis, c'est central, hein, et ça va tout autour, et on ne peut pas dissocier les choses, mais par contre, le mettre en avant. Donc ça se discute aussi collectivement, mais individuellement aussi. C'est une mission, comme Balim l'a dit quand je l'ai rencontré, c'est le conseil qui m'avait dit, il va falloir le porter, qu'on le veuille ou pas, on représente ça, on est un symbole, on incarne tout cela, donc il va falloir le porter, et les premiers sont toujours les personnes qui souffrent difficilement, mais c'est notre mission, on fait de la politique parce que quelque part on veut changer les choses réellement, donc ça va avec, certes on n'était pas préparé, mais n'empêche la réalité est là. Il faut s'adapter, il faut continuer, s'organiser, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui me permet de me dire, bon Régine, au moins, tu n'as pas vécu ça pour rien. Voilà, fais quelque chose. Et donc, c'est quelque chose, c'est ça, c'est continuer l'action et porter la lutte beaucoup plus haut que la politique. Parce que ce qui arrive dépasse la situation politique, il faut le dire, c'est humain. Et c'est notre société qui est en danger.
Et vous parliez du fait que vous aviez discuté avec une personne qui vous a attaqué, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Comment est-ce qu'on discute avec ces personnes-là? Parce que j'imagine qu'elles ne viennent pas vous voir pour vous demander comment on fait. Comment est-ce qu'on va les voir et comment est-ce qu'on dialogue avec elles?
Je sais qu'avec une vision euro-blanche, ça peut être compliqué. Mais quand on passe par là, quand on vit ce que je vis, et je pense à toutes les personnes qui me ressemblent dans ce sens-là, mais en fait, pour nous, c'est nécessaire. C'est qu'on n'a plus le luxe de dire c'est des racistes, c'est des xénophobes, ils n'aiment pas les étrangers, on arrête là. On ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est grave ce qui se passe, ça touche vraiment à la santé mentale. Je crois que ça commence à être documenté, cette question aussi des traumatismes liés au racisme. Donc oui, c'est nécessaire. Donc il faut y aller, ça coûte, ça fait mal au cœur, ça fait mal au ventre. Mais on y va parce qu'on va en tant qu'humain, on va en tant que personne pour discuter. Et donc oui, c'est moi qui fais le démarche, c'est moi qui suis allée voir la personne. D'abord, on a échangé par Messenger, j'ai envoyé vraiment mon quotidien. Je me suis mise à nu parce qu'en fait, on en est là. De toute façon, je pense qu'il n'y a plus rien de personnel à partir du moment où ça devient un sujet public. Bon, donc, on va laver cette linge sale en public. Et c'est aussi le choix que j'ai fait parce que j'estime que vivre le racisme et dire que non, c'est personnel, c'est individuel, je rentre chez moi. Non, le racisme, c'est un sujet politique publique, donc on le gère publiquement. Et c'est un choix que j'ai fini par le faire par les conseils de plusieurs personnes. Il y a eu Bali, mais il y a eu d'autres aussi. Il y a des anciens, des personnes qui sont passées par là, y compris aussi des personnes en Afrique hein, qui sont aussi d'une grande aide. C'est d'aller voir la personne. Et je dis souvent à mes copines aussi dans le quartier, il y a un travail à faire dans les quartiers, mais ailleurs aussi. Et j'ai même envie d'aller aussi dans la campagne tout autour, parce que Rennes 6, ça va jusqu'à passer, mais c'est beaucoup plus loin. Et ça aussi, c'est un peu dans la liste de mon programme qui s'est adapté. C'est aller aussi sur le terrain de là où ça se dit raciste, hein, et de comprendre pourquoi, et plus qu'on discute, puisqu'il faut vraiment que les choses avancent.
Mais en tout cas, je vous remercie pour votre témoignage au plateau de 3 en 1.
Je voulais dire merci à toutes les personnes qui étaient venues pour l'événement, enfin la mobilisation, l'appel à manifester contre le racisme. Et aussi, merci à toutes les personnes au quotidien aujourd'hui qui m'envoient des messages. Et puis aux jeunes France Insoumise de Rennes, je suis fière. Mais aussi à tous les collectifs, y compris les collectifs féministes aussi. Je pense à Nouto 35, collectif aussi de Rennes Mobilisé, le collectif Cuné, les femmes du quartier, qui, elles, pour le coup, souffrent aussi énormément avec leurs enfants à travers ce que je subis aussi. On n'en parle pas assez parce qu'elles n'ont pas le micro. Donc, force à toutes les personnes qui subissent du racisme, ne lâchez pas. Et à toutes les personnes qui le font, arrêtez. Ce n'est pas une blague. Ça fait souffrir, ça broie, ça brise. Merci à vous de m'avoir invitée.
Et merci à Julie pour la réalisation de cette interview. On continue tout de suite dans 3 en 1 avec le reportage de la rédaction. Si vous habitez à Rennes et notamment son centre-ville, vous avez sûrement vu le chantier de destruction du parking Vilaine avancer et découvrir peu à peu la Vilaine. On vous emmène au cœur de ce chantier découvrir le point de vue officiel des porteurs du projet, politiques, paysagistes, mais aussi conducteurs d'opérations.
Quelques explications là, sur ce qui se passe dans les prochaines heures, dans les prochains jours, sur la fin du chantier de déconstruction. Donc déjà, merci d'être venus nombreux pour assister aux dernières heures du parking Vilaine. Donc aujourd'hui, on est en phase d'achèvement de cette déconstruction. On est en train de déconstruire le kiosque, enfin ce qu'il en reste. Et on va reprendre dans le courant de la journée donc la déconstruction de la dalle du parking. Avec pour objectif, donc on pensait finir aujourd'hui, ce sera sans doute pas le cas, ce sera plutôt lundi ou mardi prochain, la déconstruction.
7 mai 2026. Les derniers mètres de la dalle du parking Vilaine vont être démolis dans quelques instants. À cette occasion, la ville de Rennes a organisé une visite presse et les journalistes sont venus nombreux et nombreuses.
De déconstruction qui est derrière vous, et puis on va ramener une deuxième pelle. Donc moi je suis Jean-François Papin, moi je suis conducteur d'opération à Rennes Métropole, donc en charge du projet d'aménagement des quais de Vilaine dans son ensemble. On va rendre les trottoirs et donc la nouvelle promenade le long de la Vilaine aux piétons autour du 8-9 juin prochain. Donc voilà un peu pour ce qui se passe dans les prochaines semaines et pour la fin de chantier de déconstruction. Et puis on démarrera à partir de cet automne l'aménagement des espaces publics proprement dit avec des travaux de réseau et les premiers travaux de voirie sur l'espace public. Les ouvrages à construire, donc les gradins, des encorbellements qui viendront accompagner donc les futures stations de tram.
Cette visite presse, c'est l'occasion pour la maire de Rennes, Nathalie Appéré, de revenir sur l'objectif de ce grand projet, le découvrement du parking Vilaine, lancé lors de son dernier mandat. S'adapter au changement climatique en rafraîchissant et végétalisant le cœur de ville.
Selon les prévisions climatiques qui sont désormais des données connues, nous avons la perspective en 2040 d'un climat équivalent à celui de Toulouse. Donc là encore, on retrouve les 4 degrés, c'est-à-dire un réchauffement global et une intensification des phénomènes de chaleur extrême avec des nuits tropicales augmentées et globalement une chaleur moyenne constatée équivalente à celle de Toulouse, ce qui est aujourd'hui un changement extrêmement significatif, rapide et significatif. Et puis ça, quoi que nous fassions, l'atténuation ne sera pas possible. Nous savons que d'ores et déjà, c'est acquis, d'où la débitumation, la végétalisation.
Mais le découvrement du parking Vilaine et son aménagement, c'est aussi plus largement un projet qui répond à la question
À quoi souhaitons-nous faire de la place dans nos villes ?
Christophe Cosette, je suis architecte paysagiste, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, donc en charge des aménagements globaux du centre de Rennes, là, donc, qui consiste à déjà découvrir le fleuve et à faire à aménager 2 km de quai, la place de la République et les abords du palais du commerce. Donc ça inclut aussi la rue du Pré-Beauté derrière, notamment. Il faut, à mon sens, reprendre le territoire qu'on a trop donné aux voitures. Donc là, c'est vraiment le cas avec la disparition de cet énorme parking là de 270 mètres de long, que les personnes les plus fragiles, les enfants, les gens qui marchent trouvent une place dans un contexte hyper urbain, hyper actif, que ça change du coup complètement l'expérience que l'on a pour aller faire des courses, enfin, ça va être beaucoup plus agréable. Il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique aussi, de retrouver une place importante dans un contexte qui est très minéral et très artificialisé, une place importante au vivant. Ça, c'est essentiel. Donc, on va planter près de 5000 m², un demi-hectare de plantation, hein, donc, avec près de 200 arbres et un cortège floristique qui va aussi permettre à la petite faune, aux insectes, de trouver un peu de place et d'équilibrer la ville, hein, tout simplement. Voilà, c'est des choses très simples donc, qui sont absolument nécessaires aujourd'hui.
C'était un reportage réalisé par Valentine de Canal B. Et 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Régine Comocoli d'avoir été notre invitée. Et merci à toi, Julie, pour la réalisation de cette interview. On se retrouve lundi prochain, 12h15. Même si c'est férié, on recevra le syndicat Sud Solidaire qui nous parlera, et oui, encore du Festival de Cannes. Mais cette fois, ce sera depuis la perspective des travailleurs et des travailleuses du festival, dont l'embauche est aujourd'hui conditionnée à des enquêtes menées par les préfectures. On en parlera lundi prochain, 12h15, sur le 94 FM. En attendant, l'ensemble des émissions de 3 en 1 est à retrouver sur canalb.fr, tout comme le reste des émissions de la station. Aujourd'hui, à 13h, vous retrouverez Novorama, l'émission des sorties musicales de l'indie rock à l'électropop. Et puis à 14h, ce sera la sieste sur Canal B comme tous les jours. Et ce soir, évidemment, Purple Rain en direct, comme tous les mercredis ou presque. Bonne journée à vous sur le 94 FM.